moi j'ai rentré des mouchmailles au Cachin oriental. J'ai réfléchi totalement ce qui
se passe. Moi j'ai fait une diplomatie au Cachanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, définitivement trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre tribune de tous les jours. Parole aux auditeurs, émission 100% interactive des Radio Capi. Ce premier numéro des paroles aux auditeurs du mois d'avril 2010 est consacré au tapage diurne et nocturne. Des textes et décisions interdisant ces tapages existent en RDC. Et c'est le cas, par exemple, de l'ordonnance du 16 septembre 1925 sur les tapages nocturnes et diurnes. Et selon des sources du ministère provincial de la Population, Sécurité et Décentralisation de Kinshasa, cette ordonnance n'a jamais été abrogée. Et dans la ville, province de Kinshasa, sur décision du gouverneur de la ville, quelques églises et bars ont été fermées. Et malgré ces mesures, notons que la situation persiste dans plusieurs autres quartiers de la ville, province de Kinshasa. Comment rendre effectives toutes les mesures d'interdiction des tapages diurnes et nocturnes sur toute l'étendue de la RDC et dans votre milieu? Quelles solutions préconisez-vous pour mettre fin à tout cela? Nous en parlons avec vous dans Parole aux auditeurs ces jours. Mokili Aderibo, étudiant en G2 droit au centre universitaire extension des Bounia, propose que les parquets et la police se mettent à leur travail de la recherche des infractions et que la justice s'occupe de ceux-là qui violent expressément la loi. Vos réactions, points de vue et propositions sont les bienvenus dans cette émission. Pour en parler, Parole aux auditeurs a invité Maître Rufin Loukou, porte-parole du ministre de la Justice et Droits Humains. Toute l'équipe est en place pour la production de cette émission. Titi Poutou, Nicole Ngaka et la mise en onde assurée par William Lungamba, Pierrot Elamegi et ton micro pour la présentation. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par internet en écrivant à pa@radiocati.net.
Comme je le disais au début de cette émission, à l'introduction bien sûr, nous parlons aujourd'hui du dossier tapage diurne et nocturne, la loi du 16 septembre 1925, et une loi qui n'a pas été encore abrogée, fixe bien sûr tout ce qu'il faut et tout ce qui concerne les tapages, en ce qui concerne leur interdiction. Dans la ville de Kinshasa, vous vous rappellerez qu'il y a quelques semaines, le gouverneur de la ville avait procédé à la fermeture de quelques églises et des débits de boissons, bars, pour cause bien sûr de ces tapages, de ces bruits, appelés communément par les autres observateurs la pollution sonore. Que faut-il faire pour mettre en application les mesures interdisant les tapages nocturnes dans votre milieu? Quelles sont vos propositions pour parvenir à régler ce phénomène? Nous en parlons avec vous aujourd'hui. Et bien sûr, on va avoir dans ce studio, si tout va mieux, le porte-parole du ministre de la Justice et Droits Humains, avec qui on va en parler, parce que la mesure émane du ministère de la Justice, mais qui doit être exécutée par les responsables des différentes entités à travers le pays. Mais nous avons déjà au téléphone le pasteur Godet. Pasteur Godet, vous êtes le secrétaire général des églises de réveil. Les églises de réveil sont aussi pointées du doigt parmi ceux-là qui organisent les tapages, que ce soit la journée ou la nuit, et même quelques églises ont été fermées dans la commune de Matete, par exemple, pasteur. Qu'est-ce que vous préconisez pour mettre de l'ordre dans ce secteur, comme les églises sont accusées d'être responsables ou d'être à la base des tapages diurnes et nocturnes?
Oui, merci, monsieur le journaliste, de la question que vous posez au sujet des tapages nocturnes et diurnes. Mais avant d'entrer dans le jeu, j'aimerais apporter un éclairage ou un correctif. Je ne suis pas secrétaire général des églises de réveil, mais je suis secrétaire général du Haut au Conseil des églises post-missionnaires. Un interface que les leaders de certaines confessions religieuses issues du mouvement de réveil pentecôtiste charismatique, groupe de prière et ministère, ont mis sur pied comme interface du gouvernement. Et là-dedans, il y a plusieurs confessions religieuses, le moment n'est pas d'en parler, mais c'est à ce titre-là que nous sommes secrétaire général et nous voulons, pour répondre à votre question, le toutes ces confessions religieuses, membres du Haut Conseil des Églises Postmissionnaires, sont d'accord avec le gouvernement en rapport avec ce que le gouvernement reproche ou la loi dit tapage nocturne et diurne. Nous sommes d'accord avec le gouvernement que la loi reste la loi et que les églises de notre obédience sont tenues à respecter. Mais ce que nous disons à notre niveau, c'est d'abord la clarification de ce concept tapage nocturne et diurne. Parce que la loi dont vous faites allusion de 1800, qui n'a pas encore été abrogée, définit exactement qu'est-ce qu'on entend par tapage. Donc, comme je n'ai pas le texte sous mes yeux, ce qu'on pouvait vous en référer, vous pouvez trouver qu'on définit quand même ce que c'est le tapage nocturne et diurne. Et deuxièmement, il faudrait également qu'au niveau de notre gouvernement, on sache, on nous dise en fait aujourd'hui de quelle heure, parce que nous avons vu des églises qui ont été victimes de certains excès de zèle de certains agents et fonctionnaires du gouvernement de l'État dans l'application de cette loi-là, aller contre la loi elle-même. Parce que quand on devra s'attaquer à une église qui se réunit à 18h, et quand on doit s'attaquer à une église qui se réunit à 19h et dire que c'est un tapage nocturne, je crois quelque part, c'est un abus. Il va de me rappeler qu'il y a quelques années, un ministre nous avait réunis à Ozo et qui disait que pour le gouvernement, après 22h, on doit régler le son et jusqu'à 5h du matin. Mais si aujourd'hui, maintenant, 20h, il y a des policiers qui viennent s'en prendre d'église ou 18h, que sais-je encore, quelque part, il revient maintenant au gouvernement de pouvoir clarifier la chose et ça nous aiderait tous. C'est tout ce qui est nos questions. Et de deux, le tapage nocturne ou diurne, je crois que il faudra aussi qu'on nous dise quel décibel, parce que dire seulement qu'on a mis le marche dehors dedans, c'est ça le tapage nocturne, nous ne pensons pas. Mais il faudrait aussi qu'on nous dise les décibels si possible. Cela n'est pas vraiment un problème. Mais le problème fondamental, c'est le temps qu'il faut respecter pour que les Congolais puissent dormir paisiblement, et nos églises sont tenues à le faire, et nous le faisons. Donc, s'il y a des abus, je crois, à ce moment-là, il faudrait savoir quelle église a pu abuser de cela, et le signaler au pouvoir régulateur qui gère cette église, et on pourra parler que d'entrer dans les églises, profaner les lieux du culte. Or, souvent, c'était ça, c'est le problème qui nous avait tous choqué, nous, souvent, le voir, on profane les lieux du culte, et on détruit certains hangars, alors que la loi ne voit pas ça. Donc, il y a beaucoup de cela, des abus que nous avons dénoncés, et nous sommes d'accord avec le gouvernement, quant au respect de la loi, nous voulons bien que cela soit respecté, et nos églises sont tenues à le faire exactement.
Merci, Pasteur Godet, vous demandez que l'État puisse éclaircir ce qu'on appelle les tapages et qu'on puisse mettre le temps, qu'on puisse savoir c'est à quelle heure qu'on doit interdire les tapages. Merci de votre intervention. Vous êtes ici à Kinshasa. Nous allons aussi avoir Honorable Ejiba Yamapia. Il est aussi pasteur, évêque, responsable d'une église et député national. Il y a aussi Victor qui nous appelle de Kananga. On va vous prendre juste après quelques secondes.
Parole aux auditeurs.
Honorable Ejiba Yamapia, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes député national, mais vous êtes aussi évêque, responsable d'église. Et si en RDC, nous parlons de tapage nocturne et lutte contre ces tapages à Kinshasa, quelques églises ont été fermées. Si vous avez suivi le pasteur Godet, il pose un problème de savoir qu'est-ce qu'on appelle tapage nocturne. Et cela veut dire qu'au niveau de la loi, on considère que tous les bruits, c'est-à-dire que les bruits qui vont de votre parcelle pour être entendu par les voisins, cela est considéré comme un tapage parce que ça va pour déranger la quiétude de celui qui est à côté de vous. Mais aujourd'hui, quand même, le problème est réel à Kinshasa et ailleurs, qu'il y a des églises qui célèbrent leur culte, peut-être 5 personnes à l'intérieur, on met des baffles, les voisins peuvent s'en plaindre. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'on puisse harmoniser le point de vue entre le pouvoir, entre les églises, et mettre fin, bien sûr, à ce qui est appelé aujourd'hui tapage, pasteur?
Oui, merci beaucoup pour la question et pour l'intérêt que vous avez porté à notre modeste personne. Le problème de tapage nocturne, moi je vais remonter ça un peu plus loin. Tout a commencé avec l'arrêté pris par le ministre de la Justice en date du 4 décembre. dans cet arrêté, le conseil, d'abord à cette date-là, je rappelle que le conseil des ministres avait siégé et avait rendu public son compte rendu. Et le même jour, le 4 décembre, le ministre de la Justice a pris un arrêté et il a parlé des choses ici et là. Les leaders se sont levés, y compris moi-même, pour dire au ministre que l'arrêté était anticonstitutionnel et nous avions même dit que l'arrêté était en marge avec la loi 004. Et si vous vous rappelez de la période, juste après la publication de cet arrêté-là, c'est le gouverneur de la ville qui enchaîne maintenant avec l'histoire des tapages nocturnes. C'est pourquoi peut-être les auditeurs ne diront pas que je suis allé au-delà de la question. Non, j'ai voulu remonter les choses à partir de la Genèse. Pour régler ce genre de choses, nous sommes dans un monde moderne. Dans un monde moderne, tout se gère avec le dialogue. Quand il y a dialogue, quand les deux parties s'entendent, et on pourra marcher convenablement. Parlant de l'arrêté, nous avons été avec le ministre lui-même, nous avons échangé, et il nous a dit qu'il a compris qu'il y a des églises qui ne sont pas des ERC et qu'il va corriger l'arrêté. Bon, les jours évoluant, son cabinet nous appelle pour dire effectivement l'arrêté est déjà signé. On nous a lu même les termes qui différenciaient l'arrêté du 4 décembre et l'arrêté qui est signé mais qui n'est pas encore publié. Donc pour permettre la bonne collaboration, que les églises veulent bien de tout leur cœur, que le ministre de la Justice, s'il m'entend, ou ses collaborateurs m'entendent, qu'il lui demande à ses conseillers, à ses directeurs de cabinet ou titulaires ou adjoints, de publier l'arrêté qui serait dans leur tiroir, parce qu'on nous a déjà fait la lecture de l'arrêté et tous nous sommes d'accord, et on ne sait pas pourquoi ce conseiller-là. Voilà pourquoi. Parlant de tapage nocturne, je te dis, j'ai suivi le pasteur Godet. Écoutez, le gouverneur, en prenant sa lettre qu'il a adressée au bourgmestre et ainsi de suite, il a fait allusion à l'ordonnance de 1925. Et moi, comme député, vous l'avez dit, je suis allé à la recherche de cette ordonnance-là. Dans cette ordonnance-là, il n'a jamais été question ni d'arrêter un pasteur, ni de fermer une église, ni même pas de confisquer le bafle. Alors, je vous le dis, et nous, comme Église, nous sommes d'accord que nous puissions collaborer avec les pouvoirs publics, parce que c'est ça ce que la Constitution dit, que nous, comme Église, nous ne pouvons pas dire, parce que nous sommes là, les voisins ne peuvent pas dormir. Nous, nous ne pouvons pas, parce que les mêmes fidèles-là sont aussi voisins des autres par-ci, par-là. C'est ainsi que nous disons que si nous avons un avis à donner, que nos autorités comprennent qu'il est nécessaire de collaborer avec les églises ou les associations confessionnelles selon que la Constitution le recommande. Oui, au lieu d'utiliser la force, vous savez très bien, dans le leadership, il est dit, force de dialogue, le conflit naissent. Et actuellement, quand je vous parle, les pasteurs sont en train de trouver qu'ils sont méprisés, ils ne le sont pas. Écoutés par le pouvoir public, par exemple, le gouverneur appelle une réunion, il appelle les pasteurs ensemble avec les tenanciers des bars. Comprenez-vous que c'est très grave de deux personnes qui font un travail différent, les tenanciers des bars sont des commerçants, ils font danser les danses obscènes, et les pasteurs sont en train d'aider la population à maintenir le mers. Et vous les appelez ensemble juste parce que les uns et les autres utilisent les bars. Pour nous, nous prenons cela comme un mépris à l'endroit de l'église.
Pasteur Jouba, s'il vous plaît. En fait, pasteur Jouba, je voudrais savoir, est-ce que le problème de savoir si les bruits qu'on produit, parce que vous parlez des églises, on ne peut pas parler des bars, hein, on aura le temps d'en parler avec une autre personne. En ce qui concerne les églises, est-ce que quand il s'agit de déterminer si le bruit, par exemple la musique, le bafle de l'église dérange le voisin, faut-il un dialogue avec l'État ou c'est le responsable de l'église même qui se rend compte qu'à ces moments, le volume que j'ai mis dans mon église peut déranger un voisin. Faut-il un dialogue pour ça ou c'est il revient au responsable de découvrir cela lui-même?
Bon, le dialogue se situe à ce point. L'autorité publique utilise l'ordonnance de 1925.
les églises possèdent aussi la copie de cette ordonnance-là. Mais l'interprétation que donne l'autorité publique est l'interprétation que les églises donnent dans le sens du même décret. En tout cas, ça diverge. Pourquoi? Parce que il faut définir le tapage commence à quelle heure et le tapage c'est à quel niveau. C'est pourquoi nous disons que là, le dialogue est nécessaire. Mais l'Église aussi, nous comme leaders, nous sommes en train de voir. Quand les voisins se plaignent, nous parlons avec eux, nous disons, ok, comme vous dites que notre volume est très élevé, nous allons revoir pour qu'on mette ça un peu à un degré qui concerne l'auditoire qui est là. Donc, de ce côté-là, je vous informe que dans notre cadre, les confesseurs religieux qui sont avec nous, nous avions réuni tous les pasteurs de la ville de Kinshasa ce jour-là. Plus de 5000 pasteurs étaient présents. Et nous leur avons dit que voilà de quelle manière la sagesse que Dieu nous donne peut aussi nous aider à ne pas déranger le voisin, à mettre nos instruments dans l'endroit de prière au lieu de les exposer dehors. Donc je veux vous dire, à ce point-là, nous sommes en train d'y travailler. Voilà un peu. Je veux être précis en répondant à la question.
Merci, honorable Jibé Amapia. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes en même temps évêque responsable d'église ici à Kinshasa. Victor, vous êtes à Kananga. Victor, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Victor, on vous écoute. Oui, Victor, s'il vous plaît, le problème n'est pas seulement le problème des églises, il y a aussi le problème des bars, des buvettes et toutes les autres origines des bruits qui sont considérés comme les tapages. Vous, à Kananga, est-ce que vous connaissez aussi la même situation?
Les tapages nocturnes, ça concerne presque tout le monde. Là. Alors, dans ce qui concerne les tapages-là, je sais que lorsque d'abord ce que mon prédécesseur vient de dire, dans la constitution, on n'a pas prévu de sanctions. Or, là où il y a de l'ordre, il faut qu'il y ait une sanction pour trouver une solution. Maintenant, la constitution a interdit le tapage hostile sans pour autant prévu de sanctions. Or, nous sommes tellement embêtés de temps en temps avec les églises, avec les bars, des musiques, parce que si on accompagnait cet ordre-là avec des sanctions, je sais très bien que la chose pouvait quand même bien marcher. Mais lorsqu'on n'a pas prévu des sanctions, en tout cas, c'est trop grave, parce que comment, vous savez, nous les nègres, pour comprendre tout ce qui se passe, lorsqu'on nous sanctionne, vous verrez qu'il y aura des solutions.
Mais est-ce que vous pensez, Victor, mais à Kananga, comment on procède pour mettre de l'ordre ici? Comme ça, quelques églises ont été fermées, quelques bars. Est-ce que c'est à Kananga aussi c'est la même chose ou bien vous n'avez pas une solution pour mettre fin à cela?
Kananga, c'est trop catastrophique, monsieur le journaliste, du fait que le maire de la ville avait interdit. Il a parlé, mais non, pour autant ne pas exécuter. Il n'a pas exécuté ça. Il a dit, je ne veux plus encore entendre ta part de Dieu. Après une semaine, deux semaines, on a repris donc le même mouvement. Donc, ça ne marche pas. Il n'y a que des théories, mais pas des pratiques. Pas des pratiques.
Merci, Victor. Vous êtes à Kananga. Vous préconisez l'accompagnement de la loi par des sanctions. C'est ce qui peut dissuader les gens, par exemple à Kananga, à mettre fin au tapage diurne et nocturne. Merci. Vous êtes à Kananga. Au Kassai Occidental, nous revenons ici à Kinshasa avec Madame Guylaine. Vous êtes pasteur. Madame, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi l'évêque Ejibé Amapia, vous venez de suivre Victor de Kananga. L'évêque Ejibé Amapia pense qu'il faut un dialogue entre les pouvoirs publics et les églises pour mettre de l'ordre dans ce qu'on appelle les tapages, d'abord pour les identifier, déterminer les heures. Et Victor, lui qui est à Kananga, pense qu'il faut accompagner la loi par la sanction, c'est ce qui peut aider les gens à mettre fin au tapage. Vous aussi, vous êtes responsable d'église, madame. Quel est votre point de vue pour mettre fin à cette polémique de tapage nocturne entre les pouvoirs publics, les églises, les bars et toute la population en général?
Je pense que les deux prédécesseurs ont bien défini un peu ce qu'il faut, où se trouve le problème, c'est qu'il y a un manque de communication entre les pouvoirs publics et les personnes concernées. Donc il faut qu'il y ait un dialogue franc et qu'on puisse définir clairement qu'est-ce qu'on entend par tapage et quels sont les éléments qui font qu'il y ait tapage. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire exactement, à quelle heure faut-il arrêter, et quels sont les instruments qu'il ne faut plus utiliser, et à partir de quelle heure? Alors, par rapport aux mesures d'accompagnement, je crois qu'il y a aussi un problème très très sérieux. Nous ne savons pas jusque-là qui est habilité à faire le suivi de toutes ces mesures. Parce que prendre des mesures, c'est bien, mais il faut qu'elles soient accompagnées. Et nous constatons qu'il y a un problème à ce niveau-là, Le mandat est donné à qui? À la police? À quel service? Est-ce que ces services sont clairement définis? Ces services connaissent-ils plutôt leurs limites? Donc là, il y a un problème qui se pose. Et donc, nous avons remarqué aussi qu'il y a des abus. Derrière toutes ces mesures, il y a un ménage qui se fait. Qu'est-ce qu'on demande? On dit, essayez de diminuer un peu de faire du bruit, mais entre-temps, donnez-nous un peu d'argent. Donc, ces mesures ne sont pas appliquées telles qu'elles doivent être appliquées parce qu'elles sont monnayées. Et il faudrait que les personnes, les services habilités à faire les suivis puissent être aussi suivis eux-mêmes, puissent faire un rapport de ce qu'on leur a demandé de faire et arrêtent d'accepter la corruption.
Oui, madame Guylaine, vous êtes pasteur. Est-ce que quand vous dirigez votre église, supposons par exemple que la quantité, s'il faudrait parler ainsi des bruits ou de volume, n'est-ce pas le volume de baffles dans l'église, faudrait-il qu'un voisin dise que ces baffles nous dérangent, ou c'est au niveau de l'église qu'on se rend compte que par exemple nous sommes à 100 dans la salle, nous pouvons contenir notre volume dans cette salle pour ne pas déranger le voisin. Faudrait-il que la police descende, ou bien que le pouvoir public dise en principe les décibels de volume, ou bien c'est à vous de vous rendre compte que selon le nombre de gens qui sont au sein de l'église, ce volume suffit pour qu'ils puissent suivre le message sans beaucoup de difficultés, sans problème.
Oui, je pense que les personnes, vous savez, le bruit est partout. À côté des églises, il y a des bars, il y a beaucoup de bruit dans la rue. Donc, les personnes qui sont à l'intérieur d'une église, nécessairement, ne se rendent pas toujours compte du bruit qu'elles sont en train de faire. Donc, il est bon que le pouvoir public, voyant qu'il y a des abus, puisse rappeler aux églises de faire moins de bruit. Mais il y a une manière de le dire, il y a une manière d'aborder cette problématique. Et deuxièmement, je pense que ce n'est pas à la police d'aller casser le matériel pour qu'on arrête de faire du bruit, vous savez, un matériel qui est facilement remplacé par un autre. Alors, par rapport à tout cela, nous pensons que quand le pouvoir public rappelle qu'il faut essayer de faire moins de bruit, surtout pendant la semaine, parce que les gens sont fatigués, ils reviennent du travail, nous avons des personnes âgées, nous avons des personnes malades. Moi-même, je suis voisine d'une église, et je vous assure que cette église fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et j'étais moi-même réclamée en leur disant que c'est pas possible. Moi, je suis une femme travailleuse, je voudrais aussi que mes enfants étudient pendant la semaine, et donc tout ce bruit-là, ça ne va pas. Donc, il est bon que le pouvoir public rappelle qu'il y a trop de bruit et que les églises prennent conscience que, bon, il faut un minimum. On peut rendre un culte, on peut faire un culte agréable à Dieu sans faire trop de bruit. C'est une déformation, vous savez. Donc, ça prend un peu de temps parce que ça fait des longues années qu'on n'a jamais essayé de mettre de l'ordre dans ce domaine. Donc, de part et d'autre, il y a des responsabilités. Et s'il y a une prise de conscience de part et d'autre, je pense que les choses vont s'arranger.
Merci beaucoup, madame Guylaine. Vous êtes pasteur, responsable d'église ici dans la ville de Kinshasa.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs s'épanche aujourd'hui sur la problématique tapage diurne et nocturne. Vous le savez, la loi du 16 septembre 1925 interdit les tapages nocturnes, tout bruit qui va au-delà de l'endroit où on vit, qui dérange les voisins, est considéré ainsi comme tapage. Sont pointés du doigt les églises ainsi que les bars, les débits des boissons dans la ville de Kinshasa. D'ailleurs, il y a quelques semaines, le gouverneur de la ville a procédé à la fermeture des quelques églises, quelques bars, mais malgré ces mesures, malgré l'arrêté, malgré toutes ces mesures, les tapages continuent dans les différents quartiers de la ville. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre de l'ordre dans ce secteur? Quelles solutions préconisez-vous pour mettre fin au tapage dans votre milieu? Nous en parlons avec vous. Si vous avez besoin d'intervenir, envoyez-nous aussi un mail à pa@radiookapi.net. On devait avoir dans cette émission le porte-parole du ministre de la Justice qui réglemente les secteurs, parce que nous sommes entretenus avec lui là-dessus avant le début de cette émission, pour qu'il puisse répondre aux préoccupations des uns et des autres par rapport à ce qui concerne la différenciation des bruits et des tapages nocturnes. Voilà, il vient de faire son entrée dans ce studio, on va en parler avec lui. Mais bien avant cela, nous allons prendre Ignace qui est à Matadi, René qui est ici à Kinshasa, et on va revenir à notre invité qui vient de faire son entrée dans ce studio. Ignace, vous êtes à Matadi, on vous écoute Ignace. Que faut-il faire pour mettre fin au tapage à Matadi, Ignace?
Bonjour, monsieur Jarry.
On vous écoute, Ignace.
Oui, merci beaucoup. Bonjour, monsieur le journaliste.
Bonjour, Ignace. Vous avez la parole. Oui.
Bon, je disais ceci, hein, pour cette page-là, ce n'est pas seulement les églises, parce que il y a une page qui existe au niveau des groupes aussi musicaux, des orchestres, tout cela, les tapages. Mais ce que moi, je déplore un peu, c'est que actuellement, on a envie de dire que tout est démocratisé. Mais s'il faut démocratiser le tout, alors là, il faut démocratiser aussi même les maladies. Je disais, c'est pourquoi. Parce que quand on parle de travail nocturne, il y a une loi. Quand on se passe, nul est au-dessus de la loi. Donc tout le monde est censé suivre la loi et appliquer la loi. C'est ainsi que moi je voudrais parler de ceci. L'État qui est le garant de la loi doit nécessairement s'imposer. Là où on a le mal, il faut nécessairement bien seulement. Il faut prendre des mesures parfois impopulaires pour essayer de réglementer. Il faut que l'État réglemente toute la Chine. Vous savez que même quand il faut parler de la Chine c'était comme ça aussi auparavant. Mais la Chine s'est construite à partir de. Du règlement. Donc, moi, j'incombe la faute à l'État. Il ne faudrait pas que l'État puisse s'incliner devant des individualités, mais pourtant s'imposer, même si on a fait voter, mais il faut justement appliquer la loi. Donc, j'ai vu à cette étape-là pour essayer de réglementer. Il faut que l'État prenne une responsabilité pour essayer de réglementer toute la vie à ce moment-là au Libye. Parce qu'un État passe par-ci, par-là. Voyez-vous que c'est une dispose. Il y a des églises d'ici par là. Il y a des églises qui suivent à 5 mètres d'église. 5 mètres d'église. Comment voulez-vous maintenant qu'on pose maintenant qu'il y a une faubourg qui va entendre la prière de tout le monde à tout moment. Il n'y a que 5 croyants. Mais ils mettent la musique de manière que je ne sais même pas pourquoi. Donc, j'ai dit aussi que M. Jean-Luc, c'est justement que l'État fait des musées imposables à tout le monde, parfois impopulaires, mais sanitaires.
Vous êtes à Matadi ou vous nous écoutez sur 102 MHz. Nous revenons à Kinshasa avec René. René, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous venez de suivre Ignace à Matadi. Il pense qu'il faut que l'État puisse s'imposer pour faire respecter la loi. Quel est votre point de vue pour mettre fin à tout cela? Kinshasa, d'ailleurs, on en parle plus. Les églises ont été fermées, les bars fermés, mais les tapages continuent. Qu'est-ce qu'il faut faire, René?
Oui, bon, en fait, il faut comprendre que tout cela est dû au pas des mauvaises habitudes acquises. Il y a une forte résistance au changement ici dans notre pays. Alors, à l'issue de ça, je voudrais poser une question à monsieur le journaliste qui est là. En fait, les représentants du ministre.
Allez-y, posez la question.
Oui, est-ce que il y a possibilité de se référer aux expériences passées? C'est-à-dire pendant que la ville de Kinshasa était encore Kine Label, pour résoudre certains problèmes qui se présentent actuellement. Parce qu'on sait qu'il y a des aspects très positifs auxquels on peut se référer pour résoudre certains problèmes. En pense-t-il?
Merci René, vous êtes ici à Kinshasa pour poser la question au représentant du ministre s'il faudrait se référer à l'époque de Kinshasa Label. Cela veut dire qu'à cette époque, il n'y avait pas autant d'églises, il n'y avait pas autant de bars. Ce qu'il faut faire, il va vous répondre. Merci à vous, merci aussi à Ignace qui est à Matadi au Bas-Congo.
Parole aux auditeurs.
Maître Augustin Louko, bonjour.
Bonjour, je m'excuse par rapport à nos auditeurs parce que les travaux de chauffage sur le boulevard ne permettent pas qu'on puisse rouler rapidement, mais j'ai assisté, que j'ai entendu toutes les interventions du député, du pasteur et tous les groupes. Donc je suis là évidemment pour donner quelques réponses par rapport à leurs préoccupations.
Merci, nous avons commencé depuis le début, les pasteurs qui sont intervenus et les autres intervenants ont posé le problème d'abord. Si vous pouvez, par rapport à la loi, expliquer tout ce qu'on appelle tapage nocturne, tapage dur. Quand est-ce qu'un bruit peut être appelé un tapage selon la loi?
D'abord un tapage selon la loi congolaise. Cette loi remonte de 1809. Ça veut dire que lorsque les Belges arrivent, la colonisation, ou bien avant la colonisation, parce que la colonisation a commencé en 1908, le Congo belge, avant c'était donc l'État indépendant du Congo. Lorsque les Belges arrivent, il y a plusieurs justices, il y a la justice civile, la justice commerciale, la justice pénale et la justice administrative et consorts. Il a commencé par la justice répressive. Je suis en train d'ailleurs de compiler ça dans un ouvrage qui s'appelle L'histoire de la justice au Congo. Il a commencé par la justice répressive et non les autres justices. D'abord, il a celle-ci. Aux autres aspects de la justice, il a mis la main que sur la justice répressive. Et lorsque je fouillais, n'est-ce pas, dans l'histoire judiciaire de notre pays, déjà en 1902, à Boma, on avait condamné une famille pour ta page nocturne parce que l'EDEI avait permis à la famille de faire beaucoup trop de bruit pendant une semaine et on les a amenés devant les juges à l'époque et ils les ont condamnés pour ta page nocturne. Alors, qu'est-ce que signifie ta page nocturne? Parce que beaucoup ont posé des questions, ça commence à quelle heure? Le tapage, c'est long parce que la loi n'a pas défini le tapage nocturne. Ce sont les juges qui ont défini qu'est-ce qu'ils attendent par tapage nocturne. Et en définissant le tapage nocturne, ils ont dit que non, le tapage nocturne s'attaque par tout tapage, tout bruit qui se produit pendant la partie de la nuit généralement consacrée au repos. Et cette partie de la nuit généralement consacrée au repos, c'est de 20h, n'est-ce pas, à 5h.
C'est-à-dire qu'à partir de 20h.
À 5h, est consacré généralement au
repos.
Alors, pourquoi les repos? Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on constate dans notre pays que depuis que les Lourouma nous ont quittés, Lourouma qui a failli, n'est-ce pas, découvrir le vaccin contre le sida, depuis que Théophile même nous a découvert ici les kits à la Tassa, ils n'en produisent plus parce que les bruits les suivent partout. Théophile même a pu quitter la Gombe pour aller vivre à ma campagne, le bruit le poursuit là-bas. Il peut aller à Kinshuka, le bruit le poursuit là-bas. Donc, nous n'avons plus les cadres de concentration pour le raisonnement, pour la profondeur, comme on dit que la profondeur appelle la profondeur, pour produire, pour que notre pays, nous n'avons plus, n'est-ce pas, des scientifiques qui font sensation, comme dans les années 60, parce que le bruit est partout. Et c'est bruit est partout parce que beaucoup de baffles, la personne servait, il va dans les magasins, il achète des gros baffles, et voilà, il crée un baffle sans aucune autorisation. Quelques vieilles servaient, oh non, j'ai une vision, j'ai des vieilles archibishops. La plupart n'ont pas d'autorisation. Et qu'est-ce qu'il faut? Donc, c'est pendant que les gens ont l'état de se reposer pour le travail, de dire la bonne de la journée, se reposer pour la reconstitution de l'autre journée qui suit, que les gens, avec leur gros, et c'est toujours des gigantesques baffles et des tambours extraordinaires, qu'il faut des bruits toute la nuit. Et là, vous, c'est pourquoi vous constatez pour la plupart des cas, notamment à Kinshasa, dans nos grandes villes, Lubumbashi et Kisangani, en particulier à Kinshasa, que les gens se réveillent déjà à 8h, ils sont fatigués. Ou bien ils sont déjà ivres, alors qu'ils n'ont pas dit. Ça, ce n'est pas un mystère. Ce sont les bruits qui l'ont accablé toute la nuit qu'ils devaient se reposer, qui l'ont émigré pour qu'ils se réveillent fatigués et, n'est-ce pas, ivres.
La conséquence, c'est une alimentation. Voilà, maître, bon, maintenant, les mesures que nous prenons, pourquoi ne pas les prendre en amour? Parce qu'avec le libéralisme du secteur, que ce soit dans la religion, que ce soit dans le secteur commercial, cela veut dire que c'est là où le problème doit d'abord commencer au niveau de la réglementation des églises, avant d'aller au bruit. Mais si, peut-être, au niveau de la réglementation, l'État n'a pas pu dire aux églises clairement ce qu'ils doivent faire, voilà que les églises pensent qu'ils se sont permis de faire tout, ce qui ouvre les bars, parce qu'ils n'ont pas il y a eu un texte qui leur dit quand vous ouvrez votre bar, voilà ce que vous devez faire. Quand vous installez votre église, voilà ce que vous devez faire. Vous ne devez pas faire le bruit à telle heure. Et les personnes s'en vont. Maintenant, il faut aller au dialogue pour leur déterminer à quelle heure ils doivent faire.
En ce qui concerne le débit de boissons, bar et consorts dancing, c'est un texte de 1958 qui réglemente comment on peut ouvrir un dancing, un bar, une boîte en République démocratique Congo. À l'époque, c'était Congo Belge. Donc, il y a un texte. En ce qui concerne aujourd'hui, vous avez lu l'arrêté qui seulement détermine la distance des maisons de culte ou maisons de prière sur une avenue. Parce qu'aujourd'hui, c'est toutes les parcelles. Maintenant, la réglementation dit que 100 mètres au minimum. Donc, la différence entre des maisons de culte. Donc, le problème se pose par le suivi. Et je crois que c'est l'objet de votre émission aujourd'hui. Le suivi, ça veut dire il faut que l'on enlève ça de la tête de nos compatriotes. Ce n'est pas le ministre ou le gouverneur de la ville qui va suivre l'arrêté qu'il a signé. Non. Il y a une administration qu'on appelle la police. C'est la police qui est chargée de, la loi dit, de rechercher les infractions. Ça veut dire les violations de la loi. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kinshasa, en particulier comment la police a recherché les infractions. Ça veut dire tous ceux qui continuaient à faire le bruit avec leurs bars. On a arrêté et on a fermé et les bars et les maisons d'équipe.
Et ça continue.
Et ça continue. Parce que quoi? Quelle est la conséquence? Parce que la police se dit, oh non, il n'a pas de moyens de fonctionnement, tout ça. Mais ces moyens viendront d'où? Parce que lorsqu'on fait le calcul, parmi les grands services de la terre, ce n'est pas seulement l'Occident, ce n'est pas seulement l'Occident qui est consort. C'est la police, notamment. Mais la police est laxiste. Et la police, en principe, la police devait s'entendre avec la DGRAC pour une rétrocession équitable. Pour permettre à tous ces agents de la police, tous nos policiers, d'avoir quelque chose comme une prime pour les mettre en conditionnement afin d'avoir assez de courage. Parce que quoi? Lorsqu'ils ont saisi, par exemple, dernièrement,
cette chanson-là que la commission de censure a interdit, que non, je cite ça comme ça. On a interdit cette chanson. Alors, qu'est-ce que la police doit faire? Partout on attrape qu'on a interdit ça, dans certaines chaînes de télé, ça ne passe plus. Mais dans des bars et dans signes de consommation, ça continue à être diffusé. Mais qu'est-ce que fait la police? Lorsque la police attaque cette chanson-là, qui est déjà interdite par la commission de censure, qu'est-ce que fait? Et puis, ici, et les bassins, et les matériels magnétophones, et l'appareil qui sert à la diffusion de cette chanson, on sait que ça, on amène à la police. Pour le retrait, la récupération par le propriétaire, qu'est-ce qu'on fait? C'est totalement transfert. Et ça permet à la police de vivre. Mais la police ne fait pas ça. Ou bien s'il le faut, il le faut pour le propre compte, le compte de personnes physiques. Donc, je crois que c'est important si la police continue sa mission de suivre tous les textes. C'est pourquoi quelqu'un a raison ici de dire que non, pourquoi le ministère n'a pas encore publié cet arrêté. Non, cet arrêté, vous l'aurez dans les numéros prochains du journal officiel, vous l'aurez, il sera publié. Parce que le ministre et tous les arrêtés qu'il signe et qui ont une portée générale, il les envoie au journal officiel pour publication. Donc, que ces pasteurs qui en ont besoin se rassurent que non, ceux qui sont acquis au changement. On ne peut pas continuer, n'est-ce pas, dans le régime de l'État.
Merci, Maître Ruffin. On est avec vous. Il y a Josias qui nous appelle des badolités. Mais prenons d'abord ces quelques mails qui nous sont écrits par nos auditeurs, comme Docteur Dominique qui est à Kananga. Il dit ceci, à Kananga, en fait bizarre, c'est une maison de vente de CD, cassettes, audio et vidéo qui anime l'avenir de la mission de 10h à 21h juste avec une musique à très haute voix tous les jours, et cela sous la barbe des autorités provinciales et urbaines. Et les maisons d'habitation qui sont aux alentours ne savent à quel sens se vouer. En bref, il y a tapage diurne et nocturne à cet endroit. D'ailleurs, Victor, un auditeur de Kananga, a dit que le maire de la ville avait pris la décision, mais malheureusement, il n'y a pas eu de suivi. Badeshako des Mbandaka à l'Équateur dit ceci, pour mettre fin au tapage nocturne et diurne, les autorités du pouvoir exécutif de chaque entité doivent organiser des séminaires afin que les incriminés se conforment à la loi. C'est-à-dire qu'il faut la sensibilisation. José Mokbondo de Bounia dit ceci, les églises, les kiosques, les vidéothèques, les buvettes exacerbent dans les tapages diurnes comme nocturnes, bien sûr, au point d'assourdir la pauvre population. Curieusement, l'autorité communale ou de la mairie n'arrive pas à protéger les gouvernés et assiste impuissamment à ces genres de comportements. À Bounia, à Fataki, à Kwandroma, à Boulé, j'en passe, les églises, les buvettes, les kiosques, les ciné des fortunes font des tapages terribles à côté de bureaux, des écoles, des hôpitaux, dans des marchés. C'est regrettable, la population en souffre au point de tomber malade. On donne la parole à Josias qui est à Badolité. Josias, on vous écoute. Josias, vous êtes en ligne? Là, on a des problèmes avec Josias. Nous allons donner maintenant la parole à l'évêque général, Denis Lessi. Vous êtes évêque général, je crois, de l'église des réveils aussi. Nous parlons dans cette condition d'étapage, parce que les églises sont pointées, on les a fermées, c'est intéressant, on a vu la police qui a fait le travail. Mais notre problème aujourd'hui, évêque Denis Lessi, c'est comment, c'est qu'il faut faire pour mettre fin, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle aujourd'hui tapage nocturne qui dérange les paisibles citoyens qui sont à côté des églises. Bonjour, évêque, on vous écoute.
Bonjour. Ouais, le problème d'abord, c'est que ceux qui ont créé cette situation, c'est l'État. Dans la mesure où on avait donné les églises, des documents dans des communes. Le problème a commencé au niveau des autorités locales. Et là, il y a même moi, par exemple, mon église est à moins d'un mètre avec notre église, qui est venu s'installer à côté. Bon, il y a des documents qui ont été donnés au niveau des communes sans vérifier quelles conditions se trouve l'église et puis est-ce que le pasteur, il y avait des normes qui ont été établies. L'autorité n'a pas véhiculé la loi sur le tapage, il n'a pas véhiculé la loi sur la distance des églises. Une église qui doit être installée à côté de l'hôpital ou à côté d'une école, c'est une autorité qui devrait faire les enquêtes pour voir avant d'autoriser le fonctionnement de cette église. Et l'autorité doit prévoir à expliquer aux responsables, faire des réunions, des conférences pour expliquer aux pasteurs que voilà, votre limite c'est ici, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Mais maintenant, le pasteur a des estimes, il est installé quelque part, il est installé à côté d'une école. Et maintenant, il ne connaît pas les normes réelles sur le fait. Maintenant, il fait ce qu'il entend faire, d'après ce qu'il croit. Donc, la première chose, c'est d'abord l'autorité et l'État. Alors maintenant, pour régulariser la situation, il faut que, comme les filles sont des points sensibles, il faut arriver que le ministre, comme à chaque fois qu'on se voit avec lui, de reparler avec des responsables des confessions religieuses
de tous les responsables, expliquer la chose. Il faut trouver un terrain d'entente. C'est au pasteur maintenant, à ses responsables, d'aller maintenant faire répéter ces choses auprès de leur pasteur qui les écoute. Et à ce moment, il y a un protocole d'accord qui est clair et il y aura maintenant de temps en temps l'explication sur ce fléau qui est en train de. Effectivement, il y a quand même, Dieu nous demande de prier, mais quelque part aussi, il y a certaines exagérations quelque part. Mais cela aussi n'empêche pas que les gens puissent profiter. Parce que là, je lance l'appel à chaque pasteur que même le bar, même d'autres qui font du bruit, mais les gens s'en occupent pas. Mais l'accent est placé souvent sur l'église. C'est vrai, il y a des églises qui dérangent. Mais il faut pas aussi qu'on laisse accès au diable, dans ce sens qu'il y a aussi des gens de science occulte qui veulent aussi nous étouffer. Mais l'état passe de notre église. Mais ça ne permet pas qu'on casse les églises, qu'on détruise les églises qu'on a déjà bâties à cause des documents qui ont été donnés par l'autorité. Maintenant, cette même autorité est en train de se contredire. Donc, mais la loi est dure, mais c'est la loi. Ce qui est vrai que maintenant, on doit essayer aussi de harmoniser ça pour aller petit à petit, parce qu'il faut quand même donner du temps et prévenir, enseigner et faire ça, montrer aussi l'importance des autres dans le quartier pour que ça ne dérange pas. Tout le monde ne prie pas, on n'oblige pas tout le monde de venir prier sur vous, mais tout le monde a besoin d'avoir aussi du repos, même s'il est à côté de cette église. Moi, je parle des pasteurs qui me suivent, qui m'écoutent. Nous devons aussi penser aux autres, à l'école, aux malades, aux gens qui sont à côté de nous, de diminuer un peu le volume de nos baffles pendant que nous sommes en train de faire des crises. Et ce qui est encore à proposer, il faut que l'État puisse vous donner des subventions maintenant dans des confessions religieuses pour que nous puissions arriver à construire. Parce que le problème, c'est aussi la pauvreté. L'Église ne construit pas, l'Église en plein air, il a des baffles, et qu'est-ce qu'il va se faire? Et que s'il y a des prières, par exemple, la nuit, à ce moment-là, on a l'autorisation et on prévoit maintenant les voisins ou les autres pour qu'ils puissent supporter, même pour une fois par mois, d'accord. Mais tous les jours, la nuit, les prières qui dérangent, là aussi, ce n'est pas bon. Je crois qu'ils exhortent à ceux qui sont des RRC, en tant que général des RRC, et de toutes les confessions qui me suivent, que nous puissions quand même, nous ne sommes pas indexés par l'autorité. Et nous disons aussi à l'autorité de faire bien son travail, parce qu'aujourd'hui, il parle de tapage, mais il n'a pas expliqué. Quand nous voyageons quand même en Europe, aux États-Unis, partout, il y a quand même des formations, il y a quand même des séminaires, il y a des choses qui s'organisent entre les leaders et l'État qui s'en charge pour expliquer aux gens. Mais brusquement, on prend des mesures. La personne va faire l'autodéfense et maintenant ça peut devenir une rébellion. Merci. Alors nous créons cette situation, c'est pourquoi nous demandons, comme le président de la République demande à ce que la paix règne dans le pays, nous devons respecter la loi. J'encourage le ministre de la Justice dans la paix, dans les dialogues, mais dans les formations, que l'Église, qui est la force, qui prie aussi pour la nation, pour que nous menions la paix, qui contribue, qui est partenaire de l'État. Il faut qu'il y ait dialogue. Catholique a eu la chance parce qu'ils ont des moyens, et les autres professeurs ont des moyens, mais maintenant l'Église de réveil surtout, et certaines églises, je crois qu'il est temps que l'autorité puisse arriver à donner des subventions pour que l'Église aussi puisse avoir moyen de construire, que nous puissions installer les hôpitaux aussi, nos dispensaires et tout ce qu'il faut pour nous. Et je crois que c'est la démarche qui est en train de se faire. Donc nous proposons à l'autorité le dialogue, la formation à tout moment, et l'interéchange qui existe entre les grandes confessions religieuses, qui derrière il y a beaucoup de pasteurs, où on se passe autour d'une table pour voir comment arriver, s'il y a de grandes questions dans la nation, comment les répercuter au niveau de la base.
Merci, évêque général Delilesi.
On peut le faire.
Merci beaucoup, évêque général Delilesi. Merci à vous préconiser le dialogue entre l'État, les confessions religieuses, avec un travail de sensibilisation de les côtés pour parvenir à se mettre un ordre. Doli, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Doli, on a un problème de ligne avec vous. Si vous pouvez peut-être vous déplacer un petit peu. Est-ce que vous me suivez maintenant bien?
Oui, je vous suis très bien.
On a un problème avec votre intervention, mais allez-y, on vous écoute hein, pour mettre de l'ordre.
Moi, je suis bien, c'est ça. Oui. Tout ce que je peux dire, c'est la faiblesse de l'État. Nous avons des mesures, mais il n'y a aucun accompagnement. Alors c'est l'État à tous les instruments pour faire appliquer la loi. Je me rappelle que M. Koudan, ministre de l'Intérieur du gouvernement provincial,
il a dit que ça serait la boîte toute la vigueur.
On a le problème de, on a le problème de ligne avec. Oui, on a le problème de ligne avec vous, Gaëtan, ensuite dans la maison, mettez-vous un peu à l'extérieur. Mais en attendant, on prend Gaëtan qui est à Bougna, le temps qu'il y a la réalisation, hein, s'occupe des doulis. Gaëtan, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Gaëtan. Qu'est-ce que vous vous proposez hein, pour que, par exemple, à Bougna, vous puissiez rester en paix sans tapage nocturne?
Moi, je crois que c'est un problème qui est un peu généralisé, c'est un problème général. Mais j'aimerais avoir auprès du porte-parole du ministère de la Justice une précision. Quelles sont les sanctions prévues en cas de tapage dur ou nocturne? De deux, ma préoccupation est celle-ci. Il faudrait que le ministère de la Justice fasse une sensibilisation en ce qui concerne cette loi-là, et comme on a fait à celle de la loi foncière, sur toute l'étendue nationale de la République. Et c'est comme ça que. C'est comme si cette loi-là reste dans les tiroirs, et puis c'est pas vraiment. Beaucoup de gens sont ignorants, beaucoup de pasteurs sont ignorants de cette loi-là. Au lieu de fermer les églises, ainsi de maisons là qui font des tapages, il faudrait vraiment qu'il y ait une sensibilisation, ça va aider beaucoup de gens.
Merci beaucoup Gaëtan, vous êtes à Bougna, province orientale.
Parole aux auditeurs.
Maître Jeffrey, on vous donne la parole. Vous avez suivi l'intervention de l'évêque général Denis Lessi, vous avez suivi Gaëtan. C'est comme aussi Victor Descananga qui a dit qu'il faut accompagner avec les mesures d'accompagnement par rapport à la loi. Mais il voudrait aussi savoir quelles sont les sanctions qui sont prévues par la loi en cas de tapage nocturne. Parce qu'on a vu aussi ce que les pasteurs ont déploré. Hein, là-dessus, des policiers qui sont partis, ils ont procédé à la casse, ils ont même dit qu'ils ont profané, ils ont brutalisé les gens. En principe, comment cela doit se faire et quelle est la sanction qu'il faudrait pour quelqu'un qui fait des tapages?
La sanction, c'est... Il y a une sanction de prison. De 0, si ma mémoire est bonne, de 0 à 6 mois.
De prison pour les tapages nocturnes.
Oui. Et 2, la fermeture de l'organisme et la saisie du matériel. C'est cette sanction.
On saisit le matériel, on ferme l'organisme et on a une peine de 0 à 6 mois à prison.
Le responsable par le tribunal, si le policier l'a amené au tribunal. Donc, ces sanctions peuvent d'abord être administratives, ça veut dire la police saisit le matériel. Et nos policiers, si on peut déplorer que nous, ils ont arraché peut-être avec violence les histoires, parce qu'ils ont trouvé, nos policiers ont trouvé partout dans la ville, à partir de la commune de Djili, Massina, Matete. L'applique donc, sur 80 églises qu'ils ont trouvées, 5 seulement avec quelques documents. Parce que le document principal, c'est la personnalité juridique.
Mais les bars aussi, parce qu'on a tendance à se focaliser sur les églises.
Les bars maintenant. Les bars. D'abord, nous avons les mêmes textes de 1958. Interdit la musique la journée. Ça, ce n'est même pas une tapage nocturne. Nocturne, c'est la nuit. Dur. La journée. La musique, comme on a dit au Kananga. Là, je crois que les policiers qui sont à Kananga nous écoutent. Ils doivent aller saisir ce matériel-là, de ces bars ou dancing ou discothèques qui jouent la musique à volume élevé la journée. Ça, donc le texte-là de 58 interdit ce genre de musique la journée. C'est pourquoi l'autre a recommandé que nous puissions nous rappeler de Kinshasa, Léopoldville, la Belle. Parce qu'à l'époque, ça ne pouvait pas exister. Donc, de 7 heures à 18 heures, vous passez dans tout Kinshasa, la Belle, ou Léopoldville, l'Hippopo, et bien vous n'entendrez aucun bar, aucun dancing. Les boîtes, quelques boîtes avaient l'autorisation exceptionnelle à l'époque, parce que les boîtes sont fermées, vous êtes même à la porte, vous n'écoutez pas la musique qui est dedans. Les bars, dancing et consorts n'avaient pas droit, n'est-ce pas, de jouer la musique la journée. Donc, j'aimerais rappeler à notre population qu'en dehors de ce que la police doit faire, mais nos populations, comme on l'a fait à Boma à l'époque coloniale, à 1902, comme j'ai dit, pourquoi on ne demande pas à la police de constater les bruits continuels d'un dancing, d'une église, d'un bar, d'un bistrot? Pourquoi? Parce que la police constate dans un PV, vous amenez ces PV-là devant les juges pour condamner la personne. C'est facile, là on va vous allouer 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 dollars en francs congolais comme dommage intérêt pour tous les bruits. Parce que par exemple, je me rappelle, moi j'ai vécu à Bloc, Bandal. Bissengo, d'un bloc. J'ai fait des arabes. Mais ce qu'on appelle bloc, là je me dis, aucun élève, aucune famille qui a des élèves, des étudiants ne peut vivre dans ces quartiers-là. Des blocs, des bandales que la plupart des autorités de Kinshasa connaissent. Pourquoi? Parce que là, la musique, c'est, je me demande d'où ils ont tiré l'autorisation et
de faire du tapage le principe. Et ça, c'est de la journée et de la nuit. Donc là, j'ai malheur aux parents qui ont des enfants et qui bien ou élèvent là-bas.
Alors, curieusement, il continue.
Curieusement, il continue, mais évidemment, ça, c'est de l'attribution de la commune de Bandar. La commune, donc le bourgmestre. Ces genres de situations, et ça, c'est dans beaucoup de communes. Lorsque vous allez à Matondé, c'est la même chose. Lorsque vous allez à Matete, Wendt, c'est la même chose. Je peux citer autant de communes comme ça, à Kalamu, à Kassavubu, à Kinshasa, ben, commune de Kinshasa, Lingual, non, et à Barumbu. Donc, ce sont des communes qui sont consacrées au tapage. Ce n'est pas de bonne autorisation. Donc, tous ces compatriotes qui sont dans ces quartiers-là n'ont pas droit. Mais qu'est-ce qu'ils font, en dehors de ce que la police va faire? Ils ont droit d'aller en justice. Pourquoi cette tradition, nous ne voulons pas l'adopter, de terminer nos affaires de toutes ces personnes voisines à nous, qui s'entêtent, qui considèrent que c'est l'argent, ce sont des mercantiles, ils ne voient rien du tout de bien, hein, ou à côté, ils considèrent que tous les droits des autres n'existent pas, c'est leur droit tellement à gérer l'argent. Pourquoi on ne peut pas l'amener à la justice? Et ça, je conseille à tous ces gens-là de jeter un avocat, de jeter un défenseur qui va les envoyer, les accompagner jusqu'au tribunal et procès ça. Mais je me rappelle que dernièrement à Lubumbashi, il y a quelques décennies à Lubumbashi, il y a un procès comme ça parce que le nia ou le poussi-ou-chat du voisin criait au longueur des nuits sur le toit de l'autre voisin. Vous savez ce que ça comme interprétation dans notre justice. Et le voisin a décidé de mener le procès, de mener l'affaire devant le tribunal. Et le juge a donné raison à ce voisin. On a condamné le voisin qui ne parvenait pas à garder ses chats dans la maison et de laisser sur le bruit sur le toit de l'autre. Donc bref, cette question de la justice, en dehors de ce que la police doit faire, nous devons apprendre à nous plaindre. Nous plaignons seulement et nous nous arrêtons là-bas. La justice, avec la situation actuelle, est là pour accueillir tout le monde pour toutes sortes de plaintes. Et cette plainte ici pour les tapas nocturnes. Parce qu'il y a une loi, celui qui la viole engage la responsabilité pour qu'il soit condamné.
Maître, on va prendre le dernier groupe d'auditeurs, hein, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. 5 minutes ne séparent la fin de l'émission. Merci, vous êtes à Kinshasa, Kakouli est à Kalimi, André est à Loubérou. Vous avez juste à chacun une minute. Désolé pour vous parce que c'est la fin de l'émission. Merci, vous avez une minute. On vous écoute. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Allô?
Merci, vous êtes
oui,
vous êtes sur les antennes, allez-y, oui.
Le problème, c'est d'abord l'État. L'État n'a pas mis de garde-fous. C'est question que quelqu'un se réveille un matin, il se dit pasteur, il se présente au bureau de la commune, je ne sais où, il a un peu de moyens, il paye ses quittances, on lui donne l'autorisation d'ouvrir une église ou un bar. Bon, ce n'est pas mal. Mais venez vérifier dans quelles conditions ces églises, ces bars vont fonctionner. Mais pour mettre ça sur la question que je propose, donner la condition que les églises ou les débits de boissons doivent fonctionner comme d'autres maîtres clubs où on voit on peut passer devant sans entendre un bruit de la musique. Mais ce n'est que quand vous entrez, vous ouvrez la porte, que vous allez vous apercevoir qu'il y a des gens qui dansent à l'intérieur, ou il y a des gens qui chantent.
Merci beaucoup, merci. Merci de votre point de vue. Kakouli, vous êtes à Kalimi. En une phrase, hein, qu'est-ce que vous proposez, Kakouli?
Bonjour, Pierre Lamegi.
Bonjour, proposez, on vous écoute.
Ok, réagissant à l'émission en cours, je voulais solliciter les souvenirs de tous les auditeurs et pasteurs par rapport avec la loi du 21 juillet 2001 promulguée par Son Excellence, Monsieur le Président Joseph Kabila Katangé, régissant le fonctionnement des ASBEN, les confessions religieuses et les ONGD, stipulant dans ses articles 21.3 que pour être pasteur, il faut être détenteur d'un diplôme de licence en théologie.
Donc aujourd'hui, s'il vous plaît,
au sens de l'académie, même quelqu'un qui n'a pas un diplôme d'État, ce fait passeur.
Kakouli, s'il vous plaît. Kakouli, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Kakouli, notre problème, c'est votre proposition pour mettre fin au tapage nocturne. Les pasteurs licenciés peuvent faire les bruits, les pasteurs qui n'ont pas de diplôme peuvent faire les bruits. Le problème, c'est savoir que faut-il faire pour mettre fin au tapage, Kakouli.
Le notaire ne doit plus étudier la sociologie notariée, le statut de quelqu'un qui n'a aucun niveau. D'autant plus que ce dernier n'a pas...
Apparemment, Kakouli a des problèmes. André, vous êtes à Loubero, Kakouli a apparemment des problèmes par rapport aux propositions. André, on termine avec vous, hein, 30 secondes, parce que Kakouli nous a bouffé quelques 30 secondes encore. Que faut-il faire pour vous? Vous êtes à Loubero pour mettre fin au problème du tapage.
Je dirais tout simplement que c'est le tapage nocturne de l'église. N'est que le fruit du manque de l'emploi auprès des gens qui finissent l'université. Donc la condition d'avoir un diplôme de licence n'est pas une condition valable. Il faut chercher à tout prix à occuper ces membres qui finissent l'université et essayer un peu de créer même des emplois temporaires en fait que chacun ait de l'expérience. Parce qu'en soi, on nous demande d'avoir de l'expérience et quand on veut juste des études.
Oui, mais André, il y a le problème des bars qui font le bruit. Est-ce que les bars aussi, c'est un problème de l'emploi ou c'est un problème de gens?
Bon, les bars, c'est aussi une manière de ne pas savoir gérer. La commune ne sait pas gérer les bars. Tout le monde se réveille le matin, sans faire ce que ce soit, il est bévié.
Merci beaucoup. Désolé, on termine avec vous en catastrophe. On revient à vous mettre au refrain. Vous avez suivi les auditeurs. Il y a le problème de la loi qui est la décision du ministre qui va sortir par rapport aux distances entre les églises et les problèmes aussi. Mais est-ce que le travail de suivi souterrain par rapport aux bars, aux églises va continuer pour qu'enfin on puisse vivre
paisiblement? C'est faire qu'avec la concertation de bourgmestre. Parce que ce sont les autorités, les bourgmestres sont les quartiers. Ce sont les autorités de proximité, parce que ce sont les autorités locales. Donc la police, parce que nous avons appris en éthique et d'ontologie que ceux qui n'ont pas appris la théorie de comment on fait, et font ce qu'ils voient faire. Ceux qui n'ont pas appris comment on fait, tous ces pasteurs quelconques, tous ces tenanciers de bar quelconques, qui n'ont aucune formation, ils s'improvisent et ils les chefs, ils s'improvisent là en bas. Mais n'ont rien appris de l'exercice de ces métiers-là, ils font ce qu'ils voient faire. Et si on ne peut pas abandonner la nation à des gens de débrouillards, la police doit continuer à veiller. Il y a de l'argent dedans, de l'argent, ça veut dire des amendes par rapport à tous ces récalcitrants qui eux, ne veulent pas respecter la loi. Les communes qui disent qu'ils n'ont pas de frais les frais qu'on les envoie. Il faut absolument qu'ils récupèrent dans tous ces violeurs de la loi pour que le bruit puisse être dans nos sites.
Merci, Maître Ruffin. On termine par là cette émission. Demain, on va parler du sport. Vous savez qu'il y a 4 équipes congolaises qui sont engagées en Coupe africaine. Que faut-il faire pour rendre ces équipes performantes afin d'assurer leur qualification au deuxième tour? Nous allons en parler demain avec vos fidèles auditeurs de Radio Capi. D'ici là, passez un agréable moment en compagnie de Radio Capi.